89.4, vous écoutez Un peu d'air frais, une émission de reportage sur l'écologie au quotidien.
Je m'appelle Philippe Barré, je suis donc responsable du jardin écologique. Je suis jardinier, bien sûr, avant tout du jardin des plantes. Et donc, ce jardin écologique est très important pour la biodiversité de l'ensemble du jardin des plantes. Alors, il est né, on peut dire, en 1922, avec une nouvelle, avec la nouvelle technique qui était la phytosociologie. Alors c'était vraiment un début de l'écologie et c'est grâce à un docteur en sciences naturelles qui s'appelait Pierre Allorge, qui était spécialiste des plantes du vexin français, qui a voulu, dans cette partie écologique, recréer des milieux, plusieurs milieux forestiers d'Île-de-France, bassin parisien. Et c'est à partir de 1936 qu'il a été ouvert au public pendant à peu près une trentaine d'années. Alors il fait 12 000 m², donc un peu plus d'un hectare, en comportant donc les 4 milieux forestiers. Alors il refait donc représenter depuis 2004 et 7 milieux ouverts, dont des milieux anthropisés et des milieux tout à fait naturels.
Et donc il y a une intervention écologique et en même temps il y a une intervention de jardinier.
Oui, une intervention. Alors le jardinier, il est là quand même pour surveiller les plantes, les adventices qui viendraient prendre trop rapidement telle ou telle parcelle. Donc il faut intervenir. Alors bien sûr, ces adventices correspondent à des sols plus ou moins nitratés. Celles-là, on ne les enlève pas à l'endroit où elles se trouvent. Mais sinon, dans la grande majorité, puisque c'est quand même un sol assez riche, calcaire sur l'ensemble du jardin, il faut bien sûr maintenir les plantes qui correspondent soit à une chênaie charmée, soit à une chênaie châtaigneraie où il y a des sols plus acides, et éviter que des plantes viennent s'approprier le terrain.
Oui, c'est quand même donc un jardin qui est là pour représenter des milieux qui ne sont pas forcément les milieux du le milieu des jardins, du jardin des plantes.
Oui, oui, de toute façon, là, c'est vraiment une reconstitution, hein, c'est des parcelles. Donc on le voit, hein, quand on refait une prairie de fauche, c'est quand même des grands hectares. Ici, c'est 400 mètres carrés, donc c'est évident. On recrée des parcelles en ayant la flore appropriée. Après, c'est de pouvoir la maintenir. Ce qui est important, c'est de la maintenir et qu'elle se maintienne. Donc, c'est pour ça qu'il faut intervenir. C'est vrai que le jardin des plantes, lui, dans l'ensemble, une grande partie, c'est un jardin à la française. Donc, c'est des plantations, c'est un peu en ligne. C'est très différent. C'est un peu pour faire voir qu'on pouvait créer dans ce jardin des plantes, même si c'était déjà un jardin royal, où on avait un peu un côté très structuré, qu'on pouvait recréer des milieux forestiers, et même on a l'impression quelquefois, suivant les saisons, qu'on est, bien sûr à part le bruit qui est autour, mais qu'on rentre dans une forêt ou dans un secteur forestier. Donc ça, c'est très agréable, même autant pour le jardinier que pour le public.
Donc il y a beaucoup de bois là.
Oui, alors c'est vrai que pendant la tempête 99, il y a eu quand même 35-40, une quarantaine d'arbres qui sont tombés. Mais ça fait un désastre forestier, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'essence. Mais en même temps, ça a permis une ouverture de ce secteur forestier et d'ouvrir, de faire redémarrer des plantes, des annuelles, des vivaces qui avaient un manque de soleil et qui sont ressorties automatiquement du sol. Donc on a d'autres plantes maintenant sur ce secteur. Tout en sachant que ça soit dans tous les secteurs, on a automatiquement rajouté des plantes. C'est-à-dire qu'on a un service multiplication, on a des services grain tree et on ramène les graines appropriées à ces milieux. Et soit c'est par intervention directement le semis sur place, soit c'est par repiquage. Mais les graines viennent pratiquement toutes de la nature.
Parce que moi, je me pose une question par rapport au sol, par exemple. Je ne sais pas quel type de terre vous avez dans ce lieu-là, mais j'imagine que pour reconstituer un milieu, du coup, vous devez avoir des difficultés à reconstituer un milieu si ce n'est pas la bonne terre, quoi.
Oui, alors, dans les trois, pratiquement dans quatre milieux ouverts, on a reconstitué, je parle par exemple d'un champ de messicole, d'une prairie de fauche et d'une vigne, on savait que le sol était calcaire. Donc à Paris, il est calcaire, il est légèrement limoneux, mais en même temps, il est assez caillouteux. Donc là, on n'a pas eu trop de problèmes. Simplement, on savait que la bonne terre, on peut dire, était sur 30-35 cm. En dessous, ça, c'est plus des gravats. De toute façon, le jardin des plantes, c'est beaucoup de choses qui ont été ramenées, de gravats un peu partout. Donc automatiquement, on s'aperçoit que très vite, on a des couches très caillouteuses en profondeur, très sablonneuses en dessous. Donc c'est vrai qu'il y avait des plantes qui étaient... On n'aurait pas pu faire, par exemple, une lande ou carrément un secteur beaucoup plus acide, qu'il aurait fallu beaucoup de profondeur sur les sols. Donc on a, par contre, suivi sur la partie forestière... on a créé une chênaie châtaigneraie, donc un peu ce qui correspond à la forêt de Fontainebleau, en ayant un sol acide et siliceux. Alors bien sûr, dans les années 20, dans les années 30, ils avaient fabriqué cette partie-là, ils avaient enlevé de la terre et ramené de la terre de bruyère et du sable. Et à partir de là, nous, on a repris un peu leur trame Et on a rajouté pas mal de terre de bruyère de façon à garder quand même, parce que c'est important d'avoir... À Fontainebleau, c'est un très grand secteur acide, donc il fallait absolument le reconstituer. Il n'y a vraiment que cette partie-là où ça a vraiment changé. Par contre, quand on a refait une platière, parce que les platières, c'est des formes graisseuses avec des mares temporaires ou permanentes, sur des sols très acides et sablonneux, où il y a le sable de Fontainebleau, là, par contre... Il fallait absolument pouvoir mettre une bâche, une retenue, de façon à ce qu'il n'y ait pas de remontée calcaire sur ces sols.
On peut visiter le jardin ?
Bien sûr. Alors, de ce côté-là, tout près, quand on rentre dans le jardin écologique, on est à côté donc, d'une vigne, puisque la vigne, on la présente, puisque dans le jardin des plantes, on savait déjà qu'il y avait des vignes sous Colbert, même avant, pratiquement au moment de Louis XIII. Et donc, c'était important de refaire voir un peu, au moins un élément de vigne, même si ce n'est pas au même endroit, parce que c'était plus dans le labyrinthe que dans le jardin écologique. Mais surtout, là, l'intérêt, c'est de représenter les plantes inféodées aux vignes. C'est des plantes qui, grâce à la vigne et grâce aux viticulteurs, permettent de se multiplier. Alors, c'est beaucoup d'annuels, quelques vivaces, et permettent à ces plantes de se multiplier très facilement dans ce secteur, un besoin d'ensoleillement très, très fort, sol calcaire, profond, et donc on retrouve beaucoup de bulbes, beaucoup d'annuels, dont par exemple la tulipe sauvage, Tulipa sylvestris, qui est une plante protégée nationale, dont on peut voir là sur le secteur, et des plantes vivaces comme l'aristoloche, et d'autres bulbes bien sûr, et une annuelle par exemple qui est le calendula arvincis, le souci des champs, qui, grâce à sa floraison et surtout à son implantation de graines très, très forte, est une des plantes qui capte le puceron dès le printemps. Alors donc, sauve un peu la vigne de cet insecte qui risquait de piquer les feuilles et amener toutes ces piqûres sur la vigne.
Donc ça, c'est les viticulteurs qui semaient ces plantes pour...
Alors non, ils semaient pas ces plantes-là. C'est-à-dire que c'était des plantes qu'on retrouve, qu'ils avaient autour, soit des prairies à côté, et qui, par les graines, venaient très facilement dans ce secteur, puisque les sols étaient retournés, et surtout, c'était sur des coteaux, et en étant un sol calcaire, très ensoleillé, très dégagé, donc permettait à la plante de se multiplier. On est juste devant une platière. Donc c'est vrai que c'est un milieu assez étonnant. Bien sûr, celui qui va à Fontainebleau connaît bien la forêt de Fontainebleau. Il y a 3 ou 4 secteurs de platières dans la forêt de Fontainebleau. Alors c'est des milieux graiseux, avec des roches très compactes, très sablonneuses. Et l'intérêt ici, c'est de représenter ces platières, parce que ces mares de platières sont très intéressantes pour sauvegarder une flore annuelle qui ne vit pratiquement que sur ces platières. Et on s'aperçoit depuis plusieurs années que ces platières sont, en ce moment, ont une difficulté à se maintenir due à la forêt, à la dynamique de la forêt tout autour, les pins sylvestres, les bouleaux qui reprennent un peu leurs droits. Et surtout, pendant pas mal d'années, pas mal même de siècles, il y avait de l'élevage de moutons autour de ces platières, et broutaient beaucoup les herbages, les départs d'arbustes, et donc empêchaient l'envahissement. Et maintenant, quand on retrouve, parce qu'il n'y a pas que dans Fontainebleau, hein, les platières se trouvent à peu près entre Étampes et Nemours, hein, donc c'est sud de l'Île-de-France, il n'y a pratiquement plus donc, d'élevage autour, et c'est surtout maintenant les champs de céréales qui se retrouvent. Donc automatiquement, plus d'entretien. Et c'est très vite que la forêt revient et donc va éliminer au fur et à mesure ces plantes. Donc c'est vrai qu'il y a des coins où ils essaient de sauvegarder des platières un peu... où il y a des plantes très intéressantes et c'est pas toujours facile à les avoir puisqu'il faut quand même un pH donc, très acide, entre 3,8 et 7. Et l'intérêt, c'est surtout que l'eau reste pratiquement l'hiver stagnante. Et à partir du mois de juin, mai-juin, que ces mares s'assèchent pratiquement, totalement. Donc il y a un cycle très court et que les graines restent sur place. Et dès qu'au mois de septembre, il y a des pluies importantes, les plantes redémarrent.
Vous ne faites pas venir d'animaux ici. Enfin, je vois, il y a la faune sauvage. Il y a un canard, je ne sais pas si, d'où il vient, mais autrement, non, vous parliez de moutons tout à l'heure, vous ne faites pas venir des moutons ou...
Non, non, on ne fait pas venir des moutons, ça, on n'aurait pas grand-chose, sinon il y aurait beaucoup de plantes qui seraient mangées. Non, et, non, non, mais par contre, c'est vrai, les colverts, là, on voit les colverts, les coupes de colverts en ce moment, donc ils sont, bah, y a la ménagerie du Jardin des Plantes qui est à côté, donc c'est normal qu'il y ait ces oiseaux-là, et il y a aussi la Seine, bordure de Seine, beaucoup de colverts viennent... Alors le fait de reconstituer plusieurs milieux aquatiques, hein, comme là, ici, on a un peu plus loin, on a une roselière, on a une mare de prairies hygrophiles, et on a une mare de platières, donc automatiquement, ça fait venir ces animaux. Alors, il n'y a pas que cela, hein, on a des amphibiens, hein, très très rapidement, les ranas sont venus, les crapauds... Les tritons, c'est sûrement un peu plus dur, puisque c'est quand même beaucoup plus difficile à maintenir. Ou alors, il faudrait que les œufs puissent arriver avec des oiseaux sur leurs pattes et que ça puisse pondre. Mais en tout cas, on a quand même une faune. Du moment qu'on recrée quelque chose, surtout en milieu aquatique, très rapidement, il y a une nouveauté. Il faut surtout équilibrer ces mares et permettre qu'elles vivent le plus longtemps possible.
Alors, c'est quoi ce filet au-dessus de la mare, là-bas?
Alors, on va aller voir un peu plus loin. Donc, le filet sur la mare, c'est vrai que ça fait volière. Mais ça fait pas cage, c'est plutôt volière. Et volière, c'est qu'en fin de compte, on parlait de canards, donc de colverts. Et le Jardin des Plantes, il est pris par beaucoup de canards sur place. Donc, trop de concentration. Et automatiquement, quand on a 3 ou 4 couples sur une toute petite parcelle d'une mare... On risque d'avoir un bouleversement au niveau des plantes parce que ça patauge énormément, ça mange. Donc, il y a des plantes quand même protégées des mares et c'est important de sauvegarder. Donc, c'est plus ça et aussi le problème des corneilles. Les corneilles au Jardin des Plantes sont, je ne vais pas dire un fléau parce que bon, c'est pas la corneille, elle est venue depuis une quinzaine d'années, elle était déjà présente. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une concentration plus importante. Mais en tout cas, elles sont très intelligentes et la moindre plantation qu'on peut faire autour des mares, elles viennent enlever la plante ou la casser. Donc, il faut absolument protéger. Mais on voit bien sur ces mares que le filet est une maille assez grande et permet aux libellules, donc à toutes les odonates, de passer, les oiseaux, les petits passereaux, de pouvoir passer sans aucun problème. Donc, c'est vraiment pas une fermeture, c'est quelque chose qu'il faut protéger donc, et qu'on puisse travailler en dessous. Donc, il faut avoir une certaine hauteur de volière.
Et les pigeons, alors, ils sont pas gênants, eux ?
Alors, les pigeons sont gênants, mais d'une autre façon. Les pigeons, déjà, il y en a moins. Le fait que les corneilles sont plus nombreuses dans le jardin... Il y a eu un équilibre beaucoup plus important. Parce que, sachant que les corneilles sont quand même des corvidés, donc des charognards, ils cherchent le moindre. Donc, ils peuvent attaquer facilement même les pigeons un peu malades. Ouais, donc, ils en ont éliminé, ça c'est sûr. Le pigeon, le seul problème, c'est les graines, quand on a un semis à faire. Ils aiment bien les graines, surtout les graines de brassicacées, d'astéracées, de choses qui les intéressent, et même au niveau des plantules. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention que quand on a des semis de telle ou telle famille, soit de mettre un filet au moment, et dès que la plante a poussé, on peut enlever le filet. Bon, là, on peut voir, puisqu'on est juste dans le coin des mares, que les plantes aquatiques, celles qui sont immergées, commencent à sortir, donc l'eau se réchauffe. Et l'intérêt, c'est qu'elles sortent au moment où la plante qui est dans la vase commence à redémarrer. Et surtout, c'est une mare qui fait 1,20 m de profondeur jusqu'à des étages qui font à peu près 20 cm. Donc, suivant la profondeur, les plantes remontent suivant le réchauffement de l'eau. Bien sûr, c'est un jardin qui a été repris depuis 2004. C'est vrai que ce jardin, je l'avais présenté au moment où ça avait été créé dans les années 30, mais là, le fait qu'il ait été fermé pendant une quarantaine d'années, à peu près dans les années 60 jusqu'à maintenant, en 2004, on a retravaillé ce jardin et surtout, ce qui a été très important, c'est de travailler avec le Conservatoire national du botanique du bassin parisien, Donc il y avait des spécialistes et en même temps, ça, on a eu la partie scientifique et nous, on était plus la partie technique et la liaison des deux a été excellente. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler et qu'on a pu recréer. Et c'est vrai qu'on a encore, des parcelles, du terrain, donc on essaie un peu de faire de nouvelles choses. Donc là, on peut voir en ce moment qu'on est sur un chantier, puisque là, c'est un peu le chantier, mais en fin de compte, c'est une fabrication d'une pelouse calcaire à orchidées. Et pour recréer des pelouses calcaires comme celle-ci, il faut monter des roches calcaires, il faut que ça soit extrêmement calcaire, et surtout avec des hauteurs qui peuvent éventuellement faire plus de 2 mètres de haut, si on veut avoir au moins des parcelles très abruptes pour pouvoir permettre d'avoir des orchidées qui puissent repousser dessus. Et une flore ou une graminée, mais pratiquement le sol doit être extrêmement calcaire. Alors, on est juste en face, puisque là, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus facile quand on a joué sur ce jardin en 2006, c'était de faire voir au public ce que c'était vraiment qu'une friche. Et une friche en évolution. C'est-à-dire qu'une friche, comme si chez soi, on avait un sol, on labourait son sol avec un motoculteur, par exemple, et qu'on laissait son terrain laisser tel quel sans intervenir. Et cette technique de friche, puisque là, on l'a fait sur 6 ans, donc une évolution, donc ça a démarré en 2005 et ça se finit en 2010. On a fait tout le tour, bien sûr. On voit que sur la première année, on a beaucoup de plantes pionnières. Donc les plantes pionnières, c'est celles qui sont les premières annuelles, qui sont représentatives de ces friches. Et au fur et à mesure, on a une évolution, c'est-à-dire qu'elle laisse place à d'autres plantes annuelles plus grandes, jusqu'à des vivaces, et des arbrisseaux, arbustes, pendant tant, au fur et à mesure des années. Je vais même préciser que quand on a eu un inventaire qui avait été fait la première année en 2005 de la friche, il y a eu un inventaire au mois de juillet, il y avait à peu près 128 taxons, donc genre espèces de plantes, beaucoup de plantes de Paris, plantes sauvages de Paris, et l'année dernière, il n'en restait plus qu'à peu près 78. Ce qui voulait dire que beaucoup de plantes annuelles, c'est-à-dire qu'ont disparu, ont laissé place à d'autres, et les graines, bien sûr, sont toujours dans le sol. C'est-à-dire que si on labourait ce terrain, ça serait ces plantes-là qui reviendraient. Quand on laisse ces friches, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de flores, beaucoup de vivaces, et qui permettent à beaucoup d'insectes pollinisateurs de venir. Et surtout des insectes comme les abeilles solitaires, des abeilles qui nichent souvent, qui viennent souvent dans les tas de terre, dans les buttes de terre, et qui ont besoin de telle ou telle espèce de plante pour pouvoir polliniser et après pouvoir rentrer chez soi. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on a une flore sauvage, en tout cas sur une toute petite parcelle importante, et ça permet de sauvegarder beaucoup d'abeilles solitaires.
Je me pose une question un peu idiote, mais bon, vu que vous reconstituez des milieux, j'imagine quand même que vous jardinez naturellement.
Oui. Par exemple, pour maintenir une platière où la flore est très petite, là, par contre, on intervient régulièrement à la main. Donc, ce n'est pas retourner, arriver avec sa bêche pour retourner le sol. Ce n'est pas ça. C'est vraiment de maintenir, d'enlever les plantes, de voir ce qui pourrait pousser ou pas. Donc, il faut avoir l'œil et il faut y venir régulièrement. Ce n'est pas un jardin où, comme à l'école de botanique, on a la plante et qu'on nettoie tout autour. Là, non, il faut laisser un peu la plante évoluer et que les plantes... Il faut simplement éviter qu'il y ait une plante qui disparaisse l'une à l'autre. Donc, c'est comme ça. Et que d'autres adventices viennent prendre la place.
Et donc, vous ne labourez pas ?
Pratiquement aucun labour. Le seul labour qu'on pourrait faire, et encore, on fait ça de plus en plus maintenant avec le système de grelinette pour éviter que le système se retourne, en tout cas la terre soit retournée, et que les bactéries soient vraiment trop chamboulées dans l'ensemble du terrain. C'est les plantes, les céréales, quand on sème des céréales avec les plantes liées aux moissons. Donc là, c'est un labour. Et la vigne. Mais alors la vigne, c'est comme le viticulteur, mais la différence, c'est on ne retourne pas. Là, nous, simplement, on bouge le sol. C'est-à-dire qu'on laisse aérer le sol et ça reste, la couche reste toujours au même endroit. Donc, ça permet aux annuels aussi de se multiplier. Mais voilà, on n'a pas de labour. C'est très important parce que le labour, si on le fait, automatiquement, on a les adventices, donc les annuels, comme je vous disais, sur la friche, qui vont venir. Et donc un sol, les annuels, il y en a partout. En plus, dans Paris, on a quand même la flore à côté dans la perspective du jardin. On a l'école de botanique, on a le jardin alpin. Donc on serait très vite envahi d'autres plantes. Donc il faut absolument éviter ces genres de labour. Voilà, on arrive juste, puisque c'est un peu séparé entre les milieux forestiers et les milieux ouverts, on a tout autour de jardin, on a reconstitué une haie champêtre ou haie bocagère, avec à peu près 14 espèces et essences de ces arbustes et arbres. L'important, c'est bien sûr que dans le bocage, ça permettait de sauvegarder un peu des vents du nord, donc des brise-vents. Et surtout l'érosion. L'érosion, les racines maintenaient, quand il y avait des fortes pluies, permettaient de maintenir l'eau et éviter que le bocage, en tout cas le village, puisse être inondé. Alors bien sûr, là, on s'aperçoit qu'en ce moment, c'est plus le cas. On a enlevé pendant la période du remembrement beaucoup de haies. Mais l'avantage, quand même, c'était de cataloguer un peu les champs et surtout de permettre à avoir une biodiversité autant sur les plantes tout autour, les petites plantes vivaces, autant sur les insectes, tout ce qui était faune, autant les insectes du sol que les oiseaux, les insectes juste à côté, les insectes, les abeilles solitaires qui avaient besoin de certains arbustes même pour polliniser. Donc l'important c'était vraiment ça. Et bien sûr, pour l'agriculteur, lui, il récupérait, puisque c'était des arbustes qui étaient taillés, qui étaient montés sur à peu près 6 mètres de haut et qui étaient taillés à peu près 1,50 m, 2 mètres, pour récupérer les fagots de bois, soit pour faire du pain dans leur cuisinière ou pour chauffer. Donc ça, c'était un avantage pour eux important. Et surtout, c'était beaucoup d'arbustes, les pruneliers, les pines noires par exemple, et les pines blanches, qui étaient le crataegus. Il y en avait beaucoup parce que c'était très épineux. Et ça permettait déjà aux oiseaux de nicher et surtout à éviter au bétail de sortir du champ. Alors nous, on peut voir sur le terrain que pour en même temps, puisqu'on a une coupe de bois qui est assez jeune, donc c'est des rameaux de bois, pour éviter que ça parte directement à la benne, l'intérêt c'était de pouvoir broyer ce bois et surtout de le mettre sur le sol, l'utiliser comme BRF. Le BRF, donc, c'est le bois à rameau fragmenté. Et donc on le broie et on le met à peu près sur 20-25 cm d'épaisseur. Ça permet aux arbustes de garder une certaine humidité au sol, surtout quand l'été il fait très chaud, ça sauvegarde au moins ces endroits-là. Il n'y a pas besoin donc d'arrosage. Et surtout, ça permet de faire vivre une faune intéressante de ces arbustes. Donc ça se décompose quand c'est bien fragmenté, ça se décompose en 2-3 ans maximum. Donc la première année, c'est surtout du mycélium, la champignon qui vient travailler ce bois, et ensuite c'est la plante qui se nourrit de ces déchets, en fin de compte, cette partie bois, et en même temps ça devient après carrément de l'humus sur plusieurs années.
Mais ça, c'est pas une technique ancienne?
Bah, si, c'est une technique ancienne, puisque en fin de compte, on se servait déjà un peu de ça. Alors bien sûr, il n'y avait pas de broyage, mais tout ce qui était un peu coupé, on le récupérait, dans les forêts, quand ils récupéraient ça un peu autour des arbres, ils en mettaient aussi dedans. Mais maintenant, c'est venu au goût du jour et on s'aperçoit qu'on peut, surtout avec les machines qu'on a, on peut plus facilement récupérer. Là, on va passer, on est juste à côté du mur à apoïdes. Alors c'est vrai que c'est étonnant, on voit même déjà des papillons là qui commencent à... Voilà, les papillons qui... Je crois que c'est un papillon d'une certaine ombellifère. C'est le Robert, je crois que c'est Robert le Diable. Et c'est un papillon qui aime bien les premières ombellifères qui commencent à sortir, comme le masseron, on voit ici. Et donc, il a un peu de printemps, un peu de soleil, donc c'est impeccable pour ces insectes. Mais il n'y a pas que cela, parce qu'en ce moment, le mur apoïde qu'on a fabriqué avec des étages différents, l'intérêt, c'est de ramener au moins qu'ils aient une partie ou nichée, dans le jardin, parce que c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup quand même de béton, autant dans Paris, même au Jardin des Plantes, hein, beaucoup de bâtiments. Donc c'est vrai que les lopins de terre, c'est bien d'avoir ces petits endroits-là et de pouvoir leur permettre de nicher. Et il a été fabriqué grâce à des étudiants en master, master 2, où ils ont travaillé là-dessus. Et donc, ils nous ont donné un peu leur savoir-faire et surtout savoir comment on allait pouvoir le présenter, la forme qu'il devait avoir et l'exposition qu'il devait avoir. Donc là, on voit, c'est sud-sud-est. Et l'intérêt, c'était surtout que ça soit des parties verticales, avec des étages différents, et que ça monte à peu près entre 1,50 m à 1,70 m. Et là, chaque année, ça marche très bien, même maintenant ça commence déjà à sortir, on a énormément d'insectes, et surtout en plein mois de mai-juin où ils sortent vraiment, ça grouille d'insectes avec des galeries et on voit des trous partout avec différentes grosseurs d'insectes, de ces abeilles, avec leurs parasites, donc c'est vraiment tout un système. Dans le règne des abeilles, c'est quand même pratiquement 90% ces abeilles solitaires de l'ensemble des abeilles. Donc je pense qu'il faut absolument que ça soit au moins sauvegardé. Et c'est peu connu, c'est vraiment pas connu du public. Et on connaît bien l'abeille domestique, on veut la protéger, c'est vrai que c'est important, puisque... mais l'abeille solitaire, il y a certaines qui pollinisent qu'une plante, une espèce de plante, d'autres un peu plus. Mais une abeille domestique, par contre, va polliniser sur l'ensemble de ce qu'il peut y avoir. Donc vous voyez la différence qui peut être notable. Et on peut même s'approcher et commencer à même avoir dedans, on voit un peu les trous, et on voit en train de bouger, c'est des toutes petites abeilles, on voit, ça sort et ça rentre dedans, et ça colonise à l'intérieur, et ça fait une cloison interne qui peut faire, je sais pas, 10 cm à l'intérieur, et qui reste, et donc c'est une véritable vie. En ce moment, dans le jardin, là, on a une poussée, puisque la végétation redémarre, on a une poussée de l'ortie, Urtica dioica, qu'on est en train de voir là. Alors, c'est vraiment une plante de friche, une plante où on sait que le terrain est riche et nitraté, mais par contre, l'intérêt de cette plante, c'est que c'est quand même... alors, bien sûr, on l'utilise beaucoup, cette plante-là, pour faire de la soupe d'ortie, mais en même temps, il n'y a pas que pour ça, c'est une plante pour engrais vert, c'est une plante qui permet d'éviter certains champignons, certains insectes quand on fait des décoctions ou des macérations. Et c'est maintenant qu'on commence à la prendre, puisque elle commence à pousser, elle fait à peu près une vingtaine de 20-30 cm. Et ensuite, c'est une plante qui peut monter à quelquefois 1,50 m, 1,70 m, facile. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une plante qu'on aime beaucoup quand on a ça dans son jardin, mais l'intérêt, il est là quand on veut, dans son potager, récupérer cette plante et le mettre à côté de ses légumes, et bien ça peut vous donner un fortifiant très, très fort, un engrais vert très fort. Là, on entend beaucoup en ce moment, pourtant il est presque 3h dans l'après-midi, on entend beaucoup les oiseaux. Et donc, il y a quand même, mais de plus en plus, on voit que le printemps est bien là. Il y a à peu près 2-3 semaines, il y avait très très peu d'oiseaux. Et maintenant, il y a beaucoup de petits passereaux, et surtout des oiseaux qui sont des petits migrateurs, c'est-à-dire qui vont dans le nord de la France et qui reviennent en groupe. Je parle par exemple en ce moment des verdiers, les petits oiseaux un peu jaunes qui viennent par une vingtaine en groupe. Comme ça, on commence aussi à voir la mésange à longue queue. Donc il y a énormément de... Et les entendre l'après-midi, c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est sympa. Alors c'est vrai qu'en découvrant le jardin, là, puisqu'on est rentré dans le secteur forestier, le premier secteur forestier qui est vraiment en fleurs, c'est la chênaie Charmey. Et là, on découvre que on a les premiers bulbes qui sortent, donc les narcisses. La scie, la scie bifolia, s'il y a deux feuilles. On a l'ail des ours qui commence à venir, donc une odeur très forte d'ail. Donc c'est vraiment un secteur à bulbe sur un milieu très, très, très humifère. Hein. Donc, alors ça peut être des secteurs plus secs, plus humides, mais en tout cas, c'est dans la chaînée Charmey, puisque c'est chaîne pédonculée et charme commun, c'est un des milieux forestiers très représentatifs de tout autour de Paris et le bassin parisien, mais surtout l'Île-de-France, c'est beaucoup de ces milieux. Alors, dans les chaînées Charmey, la dégradation de ces parties-là, puisque quand il y a beaucoup de piétinement, beaucoup de choses où les gens ont l'habitude d'aller tous les dimanches, samedis dans ces milieux forestiers, il y a une certaine dégradation. Et par ces dégradations-là, on a tendance à revenir avec ce secteur de l'Ormay rudéral, donc près des habitations. C'est une dégradation au fur et à mesure du temps. Et on passe directement avec d'autres arbres. Mais parce que le fait que on vienne systématiquement ou trop nombreuses dans ces parties forestières, ça se dégrade dans ces sols-là. Bien sûr, elles se dégradent parce que aussi il y a la vie de l'arbre, mais en même temps, on accentue encore plus cette dégradation.
Et les arbres ont été plantés au début, hein, c'est ça ?
Alors, ils ont été plantés, oui. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est avant que le jardin écologique soit né, c'était un arboretum. Et c'était l'arboretum de l'école de botanique. Donc, c'était un arboretum qui était classé un peu en alignement, et c'était suivant des répartitions géographiques. Alors, on peut voir un peu plus loin, il y avait le ginkgo biloba, partie asiatique, il y a des pins, il y a par exemple, pas très loin, il y a le chêne vert, qui fait partie de la partie méditerranéenne. Donc, c'était des parcelles comme ça, avec des plantes exotiques. Cet arboretum avait été conçu pour protéger des vents du nord du jardin. Donc, ça a été une belle réalisation, hein. Il y a eu du temps, puisqu'on a un arbre historique devant au début du jardin écologique, qui est le chêne vélani, qui a été planté, donc qui s'appelle Quercus itaburensis, sous espèce macrolépis, je précise le nom scientifique, et qui a été planté par René Desfontaines en 1814, qui était donc le responsable de l'école de botanique à ce moment-là.
Et la tranchée, là, c'est quoi ?
Alors, oui, bien sûr, je disais que c'était en travaux. Alors, la tranchée, c'est de refaire les fossés qui se trouvent aux abords des lisières de forêt. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de forêts où on a la tranchée, une tranchée, et on a beaucoup donc d'humidité dans ces tranchées, et on arrive à avoir beaucoup d'amphibiens. Et si on peut avoir en supplément des tritons ou salamandres, ça serait l'idéal. Donc c'est un petit plus, ça ne sera pas très très long, il y a une trentaine de mètres, mais ça sera un petit plus de cette partie-là. Alors, on est dans la chaînée Charmey, et un peu plus loin, on va passer dans la chaînée Châtaigneraie, où là, le sol est très acide. On va voir que la végétation n'a absolument pas démarré. Voilà, on passe juste à côté de l'ail des ours. Vous voyez que là, c'est les feuilles. Et bientôt, il y aura les fleurs. Et ça, c'est une plante comestible. Les Allemands, nous, les Français, on a plutôt tendance à manger la ciboulette ou la ciboule. Les Allemands mangent énormément de cette plante-là. C'est exactement le même goût que la ciboulette. C'est donc, c'est pas une plante toxique. Hein, par contre, bien sûr, à l'état jeune, on peut la manger comme ça. Dès que ça commence après à monter, à faire des feuilles très larges, le goût est moins prononcé, moins fort, donc moins intéressant. Les quatre milieux forestiers comprennent à peu près, sur l'ensemble de ce secteur, 20% de la surface forestière du jardin écologique. Le restant, on essaie d'éviter d'avoir aucune intervention. Les seules interventions qu'on pourrait faire, ça serait de couper l'ortie quand elle est très haute pour éviter qu'elle graine, et le lierre quand il prend un peu trop d'extension sur les arbres. C'est les seules interventions. Pratiquement aucun piétinement. ce qui permet de sauvegarder, d'avoir une diversité. Et c'est pour ça que le public, c'est bien de l'avoir sur visite guidée, qui suivent des allées, qui suivent un programme un peu dans ce jardin, mais qui ne rentre pas totalement dans le jardin pour piétiner les plantes et bouleverser un peu tous ces secteurs. Parce qu'il y a quand même des animaux dedans qui peuvent être dérangés. Dedans, il y a des chouettes, il y a des hérissons, on a eu des écureuils dedans. Les gens s'aperçoivent que même quand on vient, on se dit que c'est un air de nature qu'ils n'ont jamais vu. C'est-à-dire qu'entre l'extérieur des allées et quand on rentre dans le jardin, c'est complètement différent.
Vous travaillez au Jardin des Plantes avant l'ouverture du jardin écologique ?
Ah oui. Ça fait 30 ans que je suis là. J'ai travaillé dans deux secteurs. J'ai travaillé à la grainerie du muséum pendant 8 ans, dont je connais bien les plantes par leurs graines. J'ai travaillé ensuite à l'école de botanique. Donc là, c'était la multiplication directement sur le terrain par classification. Donc c'est très différent. C'est une étiquette, une plante, mais dans une certaine classification. Et ensuite, je suis venu au jardin écologique. Donc ce qui m'a permis, alors une quinzaine d'années à peu près à l'école de botanique, et ça m'a permis de voir autre chose. Donc ça a toujours été dans la botanique et surtout dans les plantes, ou d'Île-de-France, en tout cas de bassin parisien, ou de plantes de régions tempérées du monde entier. Mais toujours de plantes de régions tempérées.
Et vous êtes combien alors à travailler au jardin écologique ?
Alors, au jardin écologique, avec moi-même, on est trois. Sur une surface qui n'est pas énorme, hein, qui est plus grande que l'école de botanique quand même. Mais trois, c'est... S'il y avait une personne supplémentaire, ça serait parfait. Parce que c'est vrai qu'on serait à même à pouvoir gérer beaucoup mieux les secteurs. On demande toujours plus, hein, c'est normal. Quand on a ouvert quand même le jardin, on n'était que deux. Et on est trois depuis à peu près 3 ans. Il a été fermé 40 ans, c'était un peu un challenge de faire revivre ce secteur-là. C'est un peu différent, c'est différent par exemple d'un secteur comme l'école de botanique, où c'est un classement par systématique avec des carrés différents, jardin à la française. Donc il faut une personne pratiquement par carré pour pouvoir maintenir son secteur, vous voyez. Alors que là, on n'est pas obligé d'avoir une personne dans une chaînée Charmey, une chaînée Châtenay, parce que l'intervention est moindre. On n'a pas une même intervention, donc automatiquement, on peut faire autre chose. Donc il y a des périodes, comme par exemple quand on a vraiment des gros travaux, là, c'est bien d'avoir un peu plus de personnel. Voilà, là, on passe à côté, on n'est pas loin de la chaînée Châtenay, et on est sur un autre projet qui est une mare acide. Donc là, ici, on a refait une partie de cette mare et on va utiliser soit deux systèmes, soit une bâche, ce qu'on appelle une bâche en terre tanche. Des bâches en argile qui sont totalement écologiques, fabriquées avec deux géotextiles et des paillettes d'argile. Et au contact de l'eau et de la terre, ça gonfle 3-4 fois son épaisseur. Et surtout, écologiquement, ça ne donne aucune toxine dans le sol. Et c'est totalement imperméable. Et on a un autre système qui est une bâche en caoutchouc, une bâche en élastomère, en EPDM, qui est toxique. Je parle de la toxicité dans le sens que c'est important aussi, il y a une fabrication. De la fabrication même, mais par contre il n'y a aucune toxine au niveau du sol, que ce soit en dessous ou au-dessus au moment de la... Donc c'est important, et jamais, je dis bien jamais, même ceux qui veulent faire des bassins, ne jamais utiliser de bâche en PVC, puisque ça c'est toxique autant dans le sol, autant la fabrication, et en plus ça a une durée de vie très courte, à peu près une quinzaine d'années maximum, ça se déchire, donc c'est à éviter totalement. Donc là, on est juste dans la chaînée Châtaigneraie. Il y a les fougères aigles qui sont encore sèches, qui n'ont pas encore repris dessus. Et le sol, puisqu'on peut le toucher, le sol est bien acide et sablonneux, un sol. Donc ça, c'est important parce que le pH est quand même de 6. Donc les plantes qui correspondent à ces sols font partie. On ne peut pas avoir n'importe quoi dedans. Et en même temps, on arrose... Parce qu'on parle d'arrosage un peu dans tout le jardin, mais ici, on évite d'arroser le plus possible. Et sur les milieux acides, autant la platière que la chenille châtaigneraie, c'est toujours sur des arrosages à l'eau de pluie. On a une récupération d'eau de pluie ici et l'arrosage se fait grâce à ça. Il ne faut surtout pas arroser ni à l'eau du robinet, ni à l'eau de Seine, dont le jardin est alimenté aussi par l'eau de Seine pour les arrosages, parce que il y a énormément de calcaire et beaucoup de chlore sur les arrosages, en tout cas sur le système de robinetterie d'eau potable. Donc là, on parle de chênaies châtaigneraies. Donc châtaigneraies, c'est les châtaigniers. Ils sont un peu là, donc ils ont encore là, ils n'ont pas du tout repoussé du tout. Le bourgeon n'est même pas encore, il n'a pas encore grossi. Et les chênes qu'on a réimplantés, ce qu'ils appellent les chênes sessiles. Et je précise même que quand on a ramené de la terre de bruyère ici, qui n'était pas broyée, qui était assez grosse, on a même ramené une plante dedans qui s'appelle l'ulex, qui s'appelle l'ajon, qu'on voit souvent, quelquefois en bord de mer. Là, c'est sur un sol acide. Et on a ramené une plante qui correspond à l'ajon, qui est une plante parasite de l'ajon. C'est étonnant, elle est dedans. Elle s'est totalement installée à l'ajon, alors qu'il n'y avait pas avant. Vous voyez que ramener des terres, ramener autre chose, on ramène toujours un plus, plus ou moins. C'est-à-dire que là, ça correspond, mais on pourrait très bien ramener des plantes qui ne correspondent pas ou qui seraient peut-être même des plantes invasives, hein, puisque on présente même dans la chênaie châtaigneraie, bon là, elle n'est pas poussée, on présente une plante invasive qui s'appelle le Phytolacca americana, qui est le raisin d'Amérique. Alors bien sûr, on ne le voit pas ici parce qu'il pousse qu'à partir de mai, mais par contre, c'est une plante qui va très très vite et qui peut monter à 2 mètres de hauteur et qui envahit la forêt de Fontainebleau parce que au moment des forts vents de 99, quand ça a formé des clairières, les arbres sont tombés, ça a ouvert énormément, ben, les graines se sont multipliées et ces plantes-là ont pris le dessus. Donc c'est une plante qui avait été introduite dans les années 1860 pour la teinture. On s'en servait pour la teinture et aussi un peu après pour donner de la couleur au vin, qui était totalement interdit puisque c'est une plante toxique. Et donc on en a amené, et nous, c'est une plante, le fruit, on ne va pas le manger, mais les oiseaux adorent ça. Et donc ça se propage un peu partout. Ça ressemble un peu à une grappe de raisin. Enfin, vous voyez, donc les plantes, même si elles ont été introduites pour quelque chose, d'un seul coup, elles peuvent être invasives parce qu'il y a telle chose qui se produit.
On sentait une odeur là tout à l'heure.
Oui. Alors l'odeur, juste après, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'arbre, que c'était un arboretum, on arrivait juste dans la partie asiatique et on est juste en dessous d'un ginkgo biloba femelle. Donc les ovules qui sont au sol, ben, quand elles, surtout au mois de novembre, décembre, elles éclatent, ça donne un jus et ça a une odeur très désagréable, assez forte. Donc on la sent encore, on sent encore l'odeur au sol quand on marche dessus. Et c'est un arbre assez joli puisque c'est très proche des conifères, c'est quand même une famille à part, hein, ginkgoacées, et c'est un arbre qui est couleur dorée à l'automne. Les feuilles sont très 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 dorées, alors c'est en fin de compte des feuilles, mais c'est des aiguilles qui sont un peu collées les unes aux autres. Quand on les regarde bien, c'est un peu collé. Et l'intérêt, surtout, c'est que ça permettait d'avoir des arbres un peu comme ça en alignement. On en a mis beaucoup en alignement parce que ça résistait à la pollution des voitures. Alors, le seul petit souci, c'est que quand ils ont planté ces arbres-là, ils n'avaient pas fait la sélection des arbres mâles et des arbres femelles. Et quand ils ont planté, qu'on sait que la fructification se fait au bout de 25 ans, dès qu'il y a eu fructification, les fruits qui sont tombés au sol, quand les gens piétinaient dans les boulevards, c'était une horreur. Donc ils ont rechangé ça, ils en ont enlevé pour en remettre des pieds mâles. Et là, on passe dans l'ormai. Alors, ce qu'on appelle l'ormai, donc on pourrait dire, on parle de l'ormai, bien sûr, c'est l'orme, comment ça s'appelle, commun. Mais l'orme commun, pour en trouver maintenant maintenant en gros exemplaires, c'est très rare, puisque c'est un arbre qui a eu une maladie qui s'appelle la graphiose et qui a condamné une grande partie de ces arbres. Et dont ces secteurs donc de milieux forestiers où il y avait beaucoup d'ormes. Alors ça aime bien les sols très riches, nitratés, calcaire. Et surtout, c'était très lié aux habitations, aux ruines, ça poussait très rapidement. Alors, c'est vrai que les ormes, il y en a toujours, puisque au stade arbre, non, gros arbre, il n'y en a plus. Au stade arbuste, ça se multiplie très rapidement au niveau enracinement, des racines, je ne vais pas dire par marcotte, mais ça redémarre du sol. Et on a des petits arbustes, mais au bout de 5-6 ans, la maladie revient. Bien sûr, quand on a ces secteurs-là, un arbre qui n'arrive plus à pousser, il y en a d'autres qui le remplacent. Et à l'heure actuelle, on a surtout 3 arbres en France. En tout cas, sur la partie bassin parisien, c'est l'érable plane, le sycomore et le robinier. Et ceux-là prennent une extension très très importante. Dans ces secteurs-là, bien sûr, ça amène beaucoup de plantes sauvages, donc de sol calcaire et surtout riche. Et donc là, on peut voir l'ortie, le lierre. Là, le lierre, vous voyez comment il est. Hein. En forêt, en chênaie charmé, on ne le voit pas comme ça. On a l'impression qu'il y a des feuilles énormes, alors que souvent, c'est omniprésent, mais il y en a toujours un petit peu en forêt. C'est un peu, dans toute forêt, il y a toujours un peu de lierre, mais c'est jamais... Là, on voit bien que ça prend de l'extension. Je précise en plus que s'il y a du lierre et qu'on voit monter le lierre autant sur des arbustes que sur d'autres plantes, c'est pas le lierre va au fur et à mesure monter pour, si on n'intervient pas, bien sûr, monter jusqu'à la cime de l'arbre. Et en même temps, par le fait d'avoir des ventouses et de pouvoir se maintenir, va empêcher à l'arbre de se développer pour éviter de le condamner un peu, pour empêcher sa photosynthèse, donc de lumière. Mais il ne va pas le tuer en le pompant. C'est-à-dire que ce n'est pas une plante parasite, le lierre. C'est une plante qui monte parce qu'elle est nécessaire, parce que la fructification du lierre se fait qu'en hauteur. Juste à côté, on est sur un autre projet qui, je pense, cette année va aboutir à sa finition, parce qu'on est déjà depuis 2-3 ans dessus, mais c'est progressif parce que c'est une roselière. On veut recréer des milieux de plantes de roselière, donc de roseaux, hein, alors ce qu'on appelle les typhas, la phragmite, le vrai roseau, c'est la phragmite, des grandes graminées, avec bien sûr, c'est des grandes étendues d'eau. Là, c'est des représentations hein, de ces plantes-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir en plein jardin, en plein milieu, une parcelle d'eau avec une suite de rivières, avec une soixantaine de mètres de rivières qui est totalement artificielle, bien sûr, et bétonnée, mais par contre, avec des niveaux différents, et qui va être réalimentée avec un système, je parlais d'un système de pompe à énergie solaire. Donc le système sera un système fermé hein, d'eau et sera alimenté grâce au soleil. Hein, la pompe redémarrera et la rivière arrivera à faire son circuit quand le soleil sera là. Et donc ça sera intéressant et en même temps on permettra d'éviter un gâchis d'eau. Donc là on aura, je pense, une faune importante. L'année dernière déjà, il y avait un peu d'eau, on a vu, et même l'ornithologue qui était sur place avait bagué un martin pêcheur. Bon, donc ça c'est le gros projet dans la partie forestière. Là, on est dans cette partie de l'autre, du dernier milieu forestier, qui est une chênaie frênaie. Donc les chênes pubescents avec les frênes communs, les frênes. Donc c'est vrai que le frêne, si on ne fait pas attention, on serait vite envahi de frêne. Hein, ça pousse très vite, mais ça pousse vraiment sur les sols rocailleux, très calcaires, avoir même limite assez sombre, et surtout des chênes pubescents sur place. Et avec une flore appropriée, dont une plante là que je vois, qui est l'hélébore fétide, qui a une odeur assez forte, mais surtout... très particulière, autant pour l'iris aussi. Donc, et ça, c'est une plante qu'on avait mise surtout sur le petit fascicule du jardin, Parce que c'était un intérêt que ça fleurissait maintenant. Vous voyez, au printemps, c'est une des plantes de ces milieux-là qui fleurit.
Là, par contre, il y a une odeur agréable.
Oui, alors je crois que ça, l'odeur agréable, il y a des odeurs qui ne sont, qui sont pas toujours... Mais voilà, c'est le buis.
Ah.
Ouais, l'odeur du buis, vous voyez, la fleur. C'est vrai que le buis, qui fait partie de ces sols très calcaires, bon, c'est quand même une plante de région méditerranéenne. Mais c'est une plante, puisque la chénéfrenaise, c'est limite Loire, sud de Loire. Donc, il y en a en sud de Loire, donc elle est présente dans certaines chénéfrenaises. Et donc, il était présent, donc on l'a laissé. Et c'est vrai que c'est des buis assez... Vous voyez, que le sol correspond, on aurait un sol acide ici, on n'aurait pas de buis. Hein. C'est net. Un sol même très humide, on n'aurait pas de buis. Là, on sent que, vous voyez, les grands buis là-bas, on sent qu'ils sont, ils se plaisent bien. Donc c'est important de... Alors ici, on a une plante, puisque je parlais tout à l'heure d'une plante invasive. Là, on a une plante protégée régionale. Alors, pas nationale, protégée régionale. Voilà. Alors donc ici, je suis juste à côté de cette plante-là qui va fleurir, qui commence peut-être même à fleurir. Oui, elle n'est pas très loin, on voit les boutons. C'est, je ne me rappelle plus, c'est une aristolochiacée. C'est l'azaret, Azarum europaeum. Alors c'est une toute petite aristolochiacée, vous voyez que c'est une plante protégée puisque elle pousse aux abords des lisières de forêt ou avoir de chemins. Et souvent c'est des plantes qui sont très rapidement piétinées par le passage de gens et surtout aussi quand on commence à ouvrir un peu plus les routes de chemins plus larges, c'est des secteurs qui s'en vont totalement. Et donc, vous voyez que ça, après, ça fait des feuilles un peu, ça ressemble un peu à la feuille de lierre, entre guillemets, mais c'est pas du tout la même plante. C'est une plante, l'aristoloche, c'est un peu une... Là, c'est la famille des aristolochiacées, c'est beaucoup de ces genres, c'est les plantes tropicales, plus souvent, alors qu'on a quelques espèces de plantes tempérées qui sont issues de...
Donc là, vous l'avez mis en évidence.
On l'a mis en évidence pour la faire voir, parce que c'est sûr qu'on n'allait pas la mettre au fond si les gens sont obligés de passer pour la voir, donc c'est important. Mais on ne fait rien, vous voyez. La seule intervention qu'on peut faire, c'est éviter que le lierre vienne trop envahir, donc il y a quand même à faire voir. Mais de plus en plus, je crois que ça fait 3 ans qu'on l'a mis en place, il y en avait dedans, il y en avait sur les côtés, mais très peu. Et vous voyez qu'elle commence...
Elle n'a pas poussé dans un caillou, là, dans un rocher.
Dedans ? Non, elle a été mise dedans. C'est-à-dire que le rocher, il représente plus la partie calcaire. Donc c'est plus ça. Et pour éviter aussi qu'elle disparaisse, qu'on soit juste à côté pour la représenter. Mais sinon, ensuite, elle va pouvoir très rapidement envahir ses
alentours. Jean-Luc, pour Robert.
Let I shall cry under the light. Let I cry silent, a child. I can't. secret grows, my own shelter. As a baby in the blind, I was born to represent you, to carry your head into the sun, to carve your face into the back of the sun. Crying life, crying life, crying life, crying life.